Le CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone, du 7 au 9 octobre 2024 au Carrousel du Louvre à Paris, sur Radio Imo et Radio Territoria.
16h30 sur Radio Imo, Radio Territoria. Nous sommes toujours ici au Carrousel du Louvre pour vous faire vivre en direct cette troisième édition du CIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone. Sur 3 jours, nous recevons ici de nombreux invités et je reçois Jean-Pierre Bosque. Bonjour. Vous êtes responsable commercial, bureau Veritas, et Xavier Daval, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes vice-président du syndicat des énergies renouvelables et CEO de Kilowatt Sol.
Tout à fait.
Bienvenue à tous les deux. Merci d'être présent ici pour répondre à nos questions. Alors, Bureau Veritas qui organise 3 tables rondes sur ce salon. Avant de parler justement de ces tables rondes, peut-être rapidement un tour de table comme ça. Quel est l'intérêt pour vous typiquement d'être présent sur ce genre d'événement?
C'est accompagner nos clients avant tout. On les accompagne depuis toujours sur des projets, leurs projets de construction, sur une démarche spécifique qu'est le bas carbone, on les accompagne, et encore plus le photovoltaïque, c'est le sujet que je suis particulièrement et qui intéresse nos clients qui veulent passer au photovoltaïque parce qu'il y a un intérêt pour eux d'une certaine autonomie financière, de se projeter à long terme sur le prix de l'électricité, un investissement complémentaire.
Monsieur Daval ?
Écoutez, j'allais dire c'est de l'évangélisation. On est avec le photovoltaïque sur un nouveau vecteur énergétique qui est en train de s'imposer mondialement et on peut le regretter. La France a pris beaucoup de retard sur cette énergie, ayant fait d'autres choix dans le passé et dont acte. Alors qu'elle essaye de le rattraper, mais ça veut dire que ça pose beaucoup de questions et donc un salon comme celui-ci, c'est l'opportunité de rencontrer une profession qui devrait avoir un recouvrement naturel avec l'énergie, parce que le bâtiment et l'énergie vont ensemble.
Évidemment. Donc 3 tables rondes, je le disais, organisées sur la filière du renouvelable, sur le photovoltaïque et l'autoconsommation individuelle et sur la communauté d'énergie, le nouveau modèle du syndic même de l'énergie, c'est comme ça qu'on le baptise. Comment est-ce qu'on définit justement, vous pouvez répondre tous les deux, l'autoconsommation individuelle dans le contexte justement des énergies renouvelables ?
L'autoconsommation, c'est produire soi-même son talon, c'est installer du panneau photovoltaïque, une installation, et on va en installer jusqu'à avoir un minimum son talon de consommation. Et après, avec la communauté d'énergie, on va un petit peu plus loin.
Si j'allais peut-être un peu plus loin que la technique, pour moi, on est dans le symbolique. On s'aperçoit qu'il y a une véritable volonté de produire ses propres électrons. Et je pense que la jeune génération qui arrive et qui a un certain sens des responsabilités environnementales a envie, pour consommer, d'être producteur. C'est-à-dire que les électrons qu'ils vont brûler, entre guillemets, sont ceux qu'ils ont contribué à créer. Et c'est ça, pour moi, l'autoconsommation qui est vraiment en train de pousser.
Alors, même si la réponse paraît évidente, et je m'excuse de poser cette question qui peut paraître, prime abord, un peu idiote, mais comment est-ce qu'on peut expliquer, effectivement, le rôle de l'autoconsommation dans la transition énergétique ?
Alors, j'allais dire, c'est un moteur. Parce qu'en vérité, ce qu'on n'avait pas vu venir, l'autoconsommation a commencé tout doucement. Et l'année dernière, elle a fait 100% de croissance. Ça veut dire que on a installé dans l'année 2023 autant d'installations, enfin 2 fois plus d'installations que l'année précédente. Ouais. C'est hallucinant parce qu'en fait, à partir du moment où il fallait des conditions, c'était la crise de l'Ukraine, c'était le coût de l'énergie. Mais à partir d'un certain seuil, les gens comprennent très vite que leur intérêt, c'est de faire tout ou partie de leurs électrons, mais de s'en approprier le maximum.
On rappelle, le photovoltaïque, c'est quoi en France ? C'est 2004, c'est ça ?
Le photovoltaïque, c'est 2006, le premier tarif de rachat d'installation photovoltaïque, 2006.
Ouais. Alors, comment ça a évolué en 18 ans ?
En 18 ans, alors ça dépend ce que je fais comme comparaison, mais j'aime bien reprendre ces chiffres de l'IEO, je ne connais pas par cœur, je m'en excuse. Si on raisonne sur l'échelle d'un gigawatt, un gigawatt, c'est à peu près la taille d'un réacteur nucléaire. Eh bien, en 2004, le monde installe sur l'année 2004 1 gigawatt. Donc la capacité cumulée installée sur la planète en 2004, c'est 1 gigawatt. En 2010, c'est 1 gigawatt en un mois. En 2016, c'est 1 gigawatt en une semaine. Et aujourd'hui, le monde installe plus d'1 gigawatt par jour.
Ah oui, oui, effectivement.
C'est énorme.
C'est très parlant. C'est très
en
parlant.
France, pour comprendre, on a installé un peu plus de 20 gigawatts au total en France.
Ok. Comment est-ce qu'on évalue la rentabilité justement d'une installation photovoltaïque pour un consommateur individuel et même après pour une entreprise, pour un collectif?
C'est un investissement, un temps de retour qui se calcule comme tous les produits. Après, les objets sur lesquels on intervient, on a parlé depuis quand on fait des centrales photovoltaïques. En 2006, c'était de la centrale au sol ou des serres, et la taille standard était de 4 MW. Mm-hmm. L'objet photovoltaïque, il a bien évolué. C'est des centrales au sol qui sont de plus en plus grandes. C'est aussi des hangars agricoles, ce sont aussi des ombrières, ce sont des toitures qu'on solarise. Les objets photovoltaïques évoluent et vraiment.
En fait, pour faire simple, le retour aujourd'hui, il est en moins de 6 ans.
Ressources
sur investissement. Ouais. Et ce sont des installations qui vont fonctionner 30 ans.
Ouais.
Ce qui veut dire qu'à la 7e année, on fabrique des électrons gratuits.
Et ça, ça a évolué aussi en l'espace de 24 ans.
Oui, parce qu'il faut revenir. Il y a 24 ans, on mettait 12 ans ou 15 ans pour payer son système. Et l'amélioration des technologies qui sont donc de plus en plus efficaces, l'amélioration de l'outil industriel mondial, de la grosse machine à fabriquer les panneaux dans le monde, fait que le coût des panneaux a baissé continuellement. Pour vous donner, là aussi, si on reprend 2004, en 2004, on est à 6 ou 7 euros du watt. Aujourd'hui, on est à 18 centimes. C'est hallucinant.
Le photovoltaïque, c'est bon pour l'environnement? Si je vous pose cette question, c'est haïtien, parce que pendant quelques années, en tout cas au départ peut-être, il y avait vraiment des vraies questions aussi sur cette techno-là.
Mais c'est une question qui revient systématiquement. J'allais dire, et excusez-moi de faire une toute petite périphrase, mais j'ai moi qui travaille mondialement, avec mon petit cabinet d'expertise, nous n'avons travaillé que dans 54 pays, je vois la passion, l'engouement pour le solaire partout sur la planète, et en France, on est encore à poser des questions, on n'y voyait pas de France, des questions comme ça. Le solaire, le composant numéro un, c'est le silicium. Le silicium est le deuxième composé le plus abondant de la planète après l'oxygène. Le numéro un, c'est l'oxygène. Le numéro deux, c'est le silicium. Il n'y a pas de produit polluant sur un panneau solaire.
D'accord.
On fait des amalgames avec d'autres technos, avec les batteries, etc. Je n'ai pas de problème. Mais sur le photovoltaïque, il n'y a rien. Et donc, c'est simplement, on est rentré en France à reculons dans le solaire, là où dans tout le reste du monde, on l'embrasait et on le laissait, enfin, on l'accueillait avec bienveillance.
Le silicium est énergivore pour le produire, mais dans les panneaux photovoltaïques, on le met de moins en moins. Les couches sont de plus en plus fines, donc son coût impacte de moins en moins.
Oui, il y a un impact carbone de toute façon,
oui.
Mais elle est minime.
Oui, vous arrivez à le calculer.
Ah, mais le retour énergétique, c'est-à-dire au bout de combien de temps un panneau a payé son système, suivant où il est en France, entre 6 mois et 1 an maintenant. C'est-à-dire qu'en 1 an, il va durer 30 ans. En 1 an, il a payé sa note carbone.
Quels sont, selon vous, les principaux avantages, finalement, de l'autoconsommation individuelle pour les consommateurs, de manière générale, au sens large?
Économiquement, un temps de retour à 6 ans, une responsabilité sociale.
Ouais.
Ça, c'est ce qui intéresse aussi beaucoup de nos clients. Les entreprises ont de plus en plus cette obligation-là, ou le côté vertueux qu'elles s'imposent, et ils sont fiers de se l'imposer. C'est essentiellement ces sujets-là.
On parlait de la question environnementale à l'instant, parce que c'était des questions effectivement qui se posaient, peut-être pas ailleurs, mais en tout cas se posaient en France. Une autre question aussi se pose, peut-être, c'est que pendant un temps, est-ce que c'est peut-être toujours d'actualité, je ne sais pas, mais énormément d'entreprises venaient démarcher les particuliers chez eux pour leur suggérer effectivement d'avoir recours à l'installation de panneaux photovoltaïques. Comment est-ce qu'on s'y retrouve justement entre les entreprises? Est-ce qu'elles, d'une, elles doivent fournir une accréditation particulière? Est-ce qu'elles ont des accréditations particulières, des certifications? Comment ça fonctionne, ça?
Alors, heureusement pour nous, effectivement, il y a un certain nombre de certifications qui permettent de reconnaître les bons acteurs des mauvais acteurs. J'allais dire, comme dans n'importe quelle industrie, c'est un peu le Far West. Il y a parfois des cow-boys, heureusement quelques shérifs. Bureau Veritas fait partie des shérifs. Donc c'est un peu leur rôle, quelque part, de regarder si les installations sont qualitatives et correspondent aux règles de l'art. Et heureusement qu'on a ces contrefeux. Mais oui, donc ça veut dire qu'un bon conseil pour moi, si je devais en donner un à nos auditeurs, c'est demander des références et aller voir par vous-même. C'est en général, votre installateur, votre promoteur, soit c'est une boîte nationale qui n'existe pas et partez en courant, soit c'est un acteur local. Et dans ces cas-là, deux rues plus loin, il a déjà fait un chantier. Discutez avec le patron, le propriétaire, vous allez vite comprendre.
C'est énormément de bouche à oreille. une installation, enfin, ils sont tous, les industriels travaillent tous au milieu de CCI ou autre, ils discutent tous et ils se comparent tous les uns les autres, et c'est là que le business se fait.
Sur ce type de questions, justement, quel est le rôle du syndicat des énergies renouvelables?
Alors, il est très délicat, parce qu'en vérité, à titre personnel, j'ai bien évidemment toute l'économie en tête. Je peux vous donner le prix d'un panneau, d'un onduleur, d'un câble, etc. J'ai tous les chiffres. Et il se trouve que mon papa est sollicité quasiment toutes les semaines par un installateur qui veut lui proposer la Lune. Et j'hallucine de voir les propositions. Mais sachez que d'un point de vue légal, c'est compliqué de, entre guillemets, dénoncer une proposition commerciale bidon. C'est très compliqué à démonter de façon systématique. J'ai eu un échange il y a 15 jours avec le directeur général de l'énergie à la Défense, à la Tour Sequoia, et on se posait la question de savoir comment pourrait-on mettre quelques garde-fous pour qu'elle soit publique sans qu'on puisse être attaqué par, entre guillemets, pour diffamation ou autre, parce qu'en fait, tout le monde a le droit de vendre n'importe quoi à n'importe quel prix. Mmh. Compliqué.
Compliqué. Qu'est-ce que vous attendez très concrètement de ces tables rondes ?
Montrer à nos clients qu'on est capable de... C'est un sujet compliqué, qu'on le maîtrise, qu'on est capable de les accompagner dans cette décarbonation, tout simplement.
Tout simplement. Et justement, le retour des personnes qui assistent à ces tables rondes, elles en disent quoi ?
Elles découvrent un certain sujet, surtout l'autoconsommation collective. Elles cherchent à être rassurées. Il y avait un cabinet d'avocats, il y avait des entreprises qui ont pignon sur rue, qui font de beaux projets, comme Everwatt, comme Kilowatt Sol, EDF-ENR aussi était là, il y a des bureaux d'études sachants comme Texol, voilà un petit peu le... voir qu'il y a un écosystème de gens d'entreprises sérieuses et solides.
On a parlé très rapidement de l'autoconsommation individuelle, peut-être un peu moins de l'autoconsommation collective, ça fonctionne comment? C'est de la même façon?
Oui, en fait, pendant la conférence, on a utilisé une sorte d'analogie de poupée russe, c'est-à-dire qu'au début, on peut avoir une autoconsommation individuelle. Je produis des électrons pour moi, mais je ne les utilise pas tous. Alors peut-être que je peux raisonner avec un groupement et de dire que ceux que je n'ai pas utilisés, je les mets à disposition du pôle commun.
Ouais.
L'autoconsommation collective, c'est une somme d'autoconsommation individuelle, mais organisée.
Il y a un projet, par exemple, Bureau Veritas, que vous pouvez mettre en avant, d'autoconsommation collective, comme ça, pour que ce soit vraiment parlant.
C'est encore le début. On parlait d'appel à manifestation d'intérêt sur la base de sous-marine de Bordeaux. Mais il y en a à foison en ce moment. On a même des syndicats d'agriculteurs aussi qui font ce sujet-là, alors que c'est en zone rurale. On ne les a pas identifiés nous-mêmes. On les a découverts lors du sommet de l'élevage la semaine dernière.
Donc, et un point que je voulais peut-être partager,
allez-y.
Et qui est intéressant, c'est qu'à partir du jour où vous fabriquez vos électrons, vous ne regardez plus les électrons de la même manière. Et je donnerai un exemple d'un client qu'on a accompagné sur de l'autoconsommation individuelle. À partir du moment où c'était leur panneau solaire, ils ont regardé leur process de fabrication. Il y avait une étape la plus énergivore, c'était le broyeur de déchets. Et l'habitude était qu'en fin de journée, à 18h, on broyait les déchets.
Ouais.
Et bien maintenant, ils broient entre midi et deux.
Voilà, ça coûte moins cher.
Ça leur coûte moins cher, mais veut dire que ça change les réflexes.
Oui.
Et que tant que vous ne touchez pas au porte-monnaie ou tant que vous n'êtes pas acteur de votre énergie, vous ne la regardez pas intelligemment.
C'est vrai que dès qu'on touche au porte-monnaie, là, tout d'un
coup,
ça aide.
Oui, ça permet de réfléchir de manière nouvelle. On vit plus sur les rythmes du soleil. Au niveau de l'humain, c'est autre chose.
Un grand merci à tous les deux d'être venus sur ce plateau. Bonne table ronde encore.
Merci.
Merci également à vous de votre fidélité. Et on continue à vous faire suivre cette troisième édition du Salon SIPCA. Merci et à très vite.
Le SIPCA, le salon de l'immobilier bas carbone, du 7 au 9 octobre 2024 au Carrousel du Louvre à Paris, sur Radio Immo et Radio Territoria.